Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Alors que l'histoire ne s'intéresse généralement qu'aux faits, les émotions se retrouvent le plus souvent en marge des analyses, ou se retrouvaient, car la lecture sociologique ou émotionnelle des relations internationales est aujourd'hui un prisme source d'intérêt, et c'est une chose heureuse de mon point de vue, tant le lien entre l'individu et son environnement ne peut être dissocié. En d'autres termes, individu, communauté, État, relève chacun du vivant et fonctionne sur des registres somme toute assez semblables. Spécialiste des relations internationales, Bertrand Badie fait de l'humiliation une clé de compréhension fondamentale du système international, omniprésente dans l'histoire à travers la colonisation, les guerres. L'humiliation est elle-même génératrice de dysfonctionnement. Sa banalisation consacre l'émergence des opinions publiques et des sociétés sur la scène internationale et au-delà traduit l'inadaptation des vieilles puissances et de leur diplomatie à un monde de plus en plus globalisé. L'humiliation, perception psychologique ou ressort fondamental des relations internationales, qu'entend-on par humiliation? Quels en sont les terreaux? Quelles conséquences? L'humiliation est-elle l'apanage de l'Occident? À travers ce prisme de l'humiliation, quelle lecture faire des événements internationaux d'aujourd'hui? Conflit syrien, Ukraine, Russie, intervention extérieure française, notamment en Afrique. Nos invités, Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, son dernier ouvrage donc, Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Karim-Émile Bitard, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Badie, vous avez beaucoup écrit sur la diplomatie et les rapports de puissance entre États. Le temps des humiliés se penche sur une pratique somme toute pas si nouvelle que cela, qui consiste à rabaisser les États ou à les mettre sous tutelle. L'humiliation, selon vous, est devenue le jeu normal des relations internationales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quoi est-elle, l'humiliation, un élément constitutif du système international?
Il y a deux façons de prendre le sujet. Il y a l'humiliation au sens banal comme pratique humaine, interhumaine, je dirais. Et là, l'humiliation a toujours existé en tout lieu et dans toutes les chronologies, dans toutes les cultures. Et puis, il y a une autre manière d'aborder la chose, c'est de dire, mais si l'humiliation était un peu plus que ça en relation internationale, c'est-à-dire si c'était devenu une sorte de propriété du système international, une sorte de passage obligé des diplomaties d'aujourd'hui. Et c'est ce point que je développe dans mon livre, c'est-à-dire essayer de montrer que le système international tel qu'il est fonctionne à l'humiliation, produit de l'humiliation, et cette humiliation, bien entendu, devient belligène. Pourquoi cela? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, depuis un peu plus d'un siècle maintenant, les sociétés ont pour habitude d'entrer sur la scène internationale. Et donc, les relations internationales, ce n'est plus un jeu entre monstres froids, comme ça l'était autrefois, du temps notamment du système international européen, du concert européen. Et puis, pour une deuxième raison, c'est que nous nous sommes mondialisés. Il y a maintenant 193 États extraordinairement inégaux qui sont en compétition et les puissances occidentales n'arrivent pas à s'y faire. C'est-à-dire, ont été socialisées, formées à l'international dans le contexte du concert européen où il y avait en quelque sorte 6, 7, 8, 10 égaux qui rivalisaient, qui souvent étaient cousins parce que tous ces gens étaient alliés par des mariages dynastiques. Et donc, l'humiliation, ce n'était pas au centre de la réflexion. Maintenant, il y a des États extrêmement différents, il y a des cultures différentes, il y a des niveaux de développement différents, et donc il y a, hélas, tous les ingrédients qu'il faut pour transformer le jeu international en un jeu d'humiliation. Et encore une fois, cette incapacité qu'a eu le monde occidental de s'adapter à cette mondialisation donne au phénomène une importance considérable.
Karim-Émile Bitard, vous partagez cette prégnance de l'humiliation qu'évoque Bertrand Badie dans les relations internationales aujourd'hui?
Absolument, c'est un livre important, d'autant plus que ce sujet avait été en quelque sorte déserté, non seulement par les spécialistes des relations internationales, mais par les intellectuels universalistes qui sont quand même censés être la voix des humiliés, les porte-drapeaux des plus faibles, d'être en quelque sorte les figures oppositionnelles, comme disait Michel Foucault. Donc naguère, il y avait des intellectuels qui ont commis beaucoup d'erreurs, mais ils avaient à cœur cette préoccupation-là. Sartre, dans son engagement au Vietnam, en Algérie, pensait aux facteurs de l'humiliation. Michel Foucault, auprès des Polonais de Solidarność également. Donc c'est un sujet qui avait été ignoré par les politologues. On s'était souvent focalisé sur des humiliations individuelles qui sont également très importantes. Et il y a des cas assez marqués dans l'histoire. Si on prend la figure de Gandhi, l'un de ses biographes les plus reconnus, Louis Fisher, nous dit que Gandhi est devenu ce qu'il était le jour où il a subi une humiliation en Afrique du Sud lorsqu'on l'a chassé du train qu'il occupait parce qu'il avait un billet de première classe et on l'a jeté en dehors du train parce que il était indien dans une société divisée en noirs. Il y avait les noirs, les blancs, les indiens et les métis, comme on disait. Même en France, si on pense à la Révolution française, une figure comme Barnave est devenue révolutionnaire, semble-t-il, alors que rien ne le prédestinait à cela. C'était quelqu'un de plutôt conservateur, d'un milieu relativement aisé. Mais le jour où sa mère a été chassée d'une loge qu'elle occupait au théâtre de Grenoble, il est devenu révolutionnaire. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre comment ce facteur s'applique aux nations, avec des exemples importants du traité de Versailles. Et là aussi, ça fourmille d'exemples historiques qui ne sont pas suffisamment utilisés. Les politologues qui ont une tendance à prêcher pour des politiques musclées nous sortent toujours l'analogie avec Munich. Dès qu'il s'agit de légitimer une expédition quelque part, on nous parle de Munich et on ignore beaucoup d'autres exemples historiques qui sont cités dans ce livre. On ignore aussi Sarajevo 1914, la rapidité avec laquelle les choses se sont enflammées. Donc en effet, c'est un vecteur absolument décisif et ce livre vient à point sans être un livre militant. C'est un livre qui vient à point pour nous inciter à remettre en cause les schémas préconçus.
Donc Karim Émile Bitar l'a dit et on le sent bien, Bertrand Badie, la question d'humiliation, elle n'est pas nouvelle. Elle s'est probablement systématisée. C'est ce que vous démontrez dans votre livre. En tout cas, le sujet de l'humiliation a longtemps été ignoré par les politologues, mais il existe et il est présent dans les relations internationales depuis longtemps. Vous parlez d'États en compétition. Les États sont en compétition pour quoi, Bertrand Badie ?
En fait, c'est variable. Je voudrais tout de suite ajouter compétition entre égaux ou entre inégaux. Et c'est pas du tout la même chose. Si vous regardez la chronique des relations internationales européennes, en gros, depuis le XVIIe siècle, quand a commencé, paraît-il, notre modernité politique, vous savez, le fameux traité de Westphalie, les traités de Westphalie en 1648, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la compétition était entre égaux. Et donc, le jeu international, ça ressemblait presque à un tournoi, un jeu de chevalerie où les rois mesuraient leur force et, au gré de l'évolution de leur puissance, reculaient ou avançaient leurs frontières. C'était devenu presque une règle qui échappait au peuple, d'un certain point de vue. Alors, il y a eu la Révolution française, ça a commencé à brouiller les choses. Mais surtout, est apparue l'inégalité foncière, essentielle, fondamentale entre les États. Et ça, c'est l'histoire de notre contemporanité, c'est l'histoire d'une série d'échecs. On n'a pas su intégrer les sociétés au jeu international, on a raté la décolonisation. On oublie toujours de dire que la décolonisation est probablement un des événements les plus importants des relations internationales, où on est passé de 50 à 150 et maintenant presque 200 États sur la planète. Cet événement majeur de nos relations internationales a été complètement raté, complètement loupé. Et donc, on a créé la compétition entre inégaux. Alors, la compétition entre inégaux, ça sortit de tout un tas de choses. Les tutelles, la clientélisation des faibles par les forts, le goût de protection. On est protecteur du Mali, on est protecteur de la République centrafricaine. Vous voyez à quoi je fais allusion. Mais surtout, apparaît l'idée derrière cette compétition inégale que certains États peuvent faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Que certains États ont la responsabilité de l'ordre global, alors que d'autres pas.
Vous pensez aux Américains ?
Je pense aux Américains, je pense aux puissances moyennes. Je veux dire, cette façon que l'on a en France de considérer qu'on a des responsabilités particulières à l'égard de l'Afrique. Mais pourquoi des responsabilités particulières à l'égard de l'Afrique ? Quel droit exorbitant avons-nous par rapport à nos anciennes colonies qui permettraient dans ce cas-là aux Portugais de faire la pluie et le beau temps en Angola ou au Mozambique, ou aux Russes de faire la pluie et le beau temps en Ukraine, qui était leur ancienne colonie également ? Je veux dire, cette façon de considérer que les États ne boxent pas dans la même catégorie, que certains ont une responsabilité universelle et d'autres à peine la responsabilité de se prendre en charge, et souvent même plus du tout, ça crée la compétition inégale, et c'est la raison pour laquelle, vous me demandiez pourquoi il y a compétition entre États, autrefois c'était une compétition d'intérêts, maintenant c'est différent. Les relations internationales reposent sur une compétition de statut. C'est-à-dire, on est en compétition pour jouer en première division, en deuxième division ou en division d'honneur. C'est ainsi qu'est structurée la vie internationale aujourd'hui. Vous avez un club de puissance en première division, généralement puissance nucléaire et P5, l'un et l'autre se confondant. Vous avez en deuxième division des petites puissances moyennes qui, à mesure qu'elles deviennent émergentes, vont jouer les barrages pour entrer en première division, et ça sera difficile. Et puis, vous avez en division d'honneur cette foultitude de ce qu'on appelle en langage footballistique les petits poussés qui vont des îles Samoa jusqu'à la République centrafricaine et qui n'ont rien d'autre à faire que d'abord de contempler la pauvreté du budget de leur petit club par rapport au budget du Paris Saint-Germain ou équivalent ou du Manchester United. Vous savez, par parenthèse, Manchester United a un budget supérieur à la FAO. Et ben voilà, là c'est exactement la même chose, inégalité de moyens et surtout inégalité de prétention. Si il n'en ressort pas l'humiliation, je me demande où elle irait se percher.
Karim El Bita.
Oui, en effet, j'ai vu la semaine dernière une étude qui comparait les dotations des grandes universités américaines au PIB de certains pays. Et vous avez, si je me souviens bien, Harvard qui est l'équivalent du Kenya, Yale qui est l'équivalent de tel ou tel autre pays africain. C'est en effet assez flagrant. Et on a eu un bel exemple de cette rhétorique « faites ce que je dis, pas ce que je fais » il y a quelques semaines avec John Kerry suite à l'intervention russe en Crimée qui disait « comment se peut-il qu'au XXIe siècle, on invente des prétextes fallacieux pour intervenir dans un pays, en l'occurrence voisin, comme s'il ne s'était rien passé en 2003 en Irak. » Donc il y a cette incapacité de regarder l'autre et il y a en effet le passé colonial que Bertrand Badie appelle, je crois, les inégalités constitutives, les humiliations constitutives dans ce livre, qui ne sont toujours pas soldées. Et là, je pense aussi à la France. La France a beaucoup de mal à s'engager dans une réflexion post-coloniale dépassionnée. On est toujours dans une logique quelque peu paternaliste. Et l'idée de la pensée post-coloniale, ce n'est pas tant d'entrer dans des repentances comme on voudrait nous le faire croire, c'est plutôt de faire émerger des lectures en contrepoint. Et ce n'est que lorsque ces différentes visions en contrepoint se font entendre les unes et les autres qu'on peut parvenir à une certaine harmonie. On est toujours en France dans une logique néocoloniale plutôt que post-colonial au sens d'apaisement des passions qui ont frappé ce pays entre 1830, l'arrivée en Algérie et la décolonisation. On n'a toujours pas transcendé ces blessures. On parle de Vichy comme d'un passé qui ne passe pas, ce qui est très vrai, mais le passé colonial non plus a beaucoup de mal à passer. Et on voit certaines attitudes vis-à-vis du Mali, de la Centrafrique, qui doivent apprendre par le président français quelle sera la date de leurs élections, etc.
Alors justement, Bertrand Badie, j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu cette question des interventions extérieures françaises actuellement en Afrique, notamment au Mali, en Centrafrique. Pour vous, ce sont des formes de recolonisation ?
Ah ben c'est une histoire qui se prolonge, tout simplement. C'est-à-dire que la question de l'intervention est devenue tout naturellement la grande question de relations internationales. C'est-à-dire, à partir du moment où on entre dans un monde mondialisé, on entre dans un monde de turbulence, et comme ce monde de turbulence est de plus en plus interdépendant, il faut de plus en plus se pencher sur ce qui se passe chez l'autre. C'est la raison pour laquelle on a vu ce thème de l'intervention monter en importance à mesure que l'on sortait de la bipolarité et qu'intervenue cette fameuse doctrine de la responsabilité de protéger. Mais cette idée, elle est incontournable. Pour autant, on n'a pas répondu aux trois grandes questions qu'elle soulève. Qui intervient? Comment on intervient? Et pourquoi on intervient? Et effectivement, là où l'humiliation est au centre du jeu international actuel, c'est que l'on a répondu à ces trois questions sur le postulat de l'inégalité foncière. Il y a inégalité entre l'ancienne puissance coloniale et le petit État colonisé ou post-colonisé, donc c'est à la puissance coloniale de faire œuvre de tutelle. Comment ? Eh bien, en utilisant la force. Et pourquoi ? Pour établir un régime qui ressemblera le plus possible à ce que le grand frère vous a ainsi appris. Et donc, on est dans le prolongement de la logique coloniale et on est en même temps dans une logique générative de l'humiliation. Comment pouvez-vous accepter, lorsque vous êtes centrafricain et que vous êtes malien, que ce soit l'ancienne puissance coloniale qui prenne en charge l'ordre chez vous, qui en détermine le calendrier électoral, qui détermine les réformes à faire, qui détermine la conduite diplomatique qui doit être celle du nouveau dirigeant, et qui décide de qui va être le futur dirigeant. Enfin, rappelez-vous dans quelles conditions le président Njotodia, qui n'était certes pas un modèle de légitimité, a été débarqué en janvier dernier, lorsque l'Élysée en avait ainsi décidé, et que tout ce monde-là a été convoqué dans la très démocratique République du Tchad, où deux grands démocrates africains, M. Idriss Déby et M. Sassou Nguesso, ont décidé de mettre fin aux fonctions de M. Njotodia et de le remplacer par un autre, ou plus exactement une autre. Ça, c'est vraiment, dans chacun des mouvements que j'ai décrits, une source terrible d'humiliation. Or, n'oubliez pas, parce que ça c'est le fond du problème, nous sommes aujourd'hui dans un monde où de plus en plus l'agenda est fabriqué par les faibles davantage que par les forts, où les forts sont réactifs et où les faibles sont proactifs. Donc, lorsque vous jetez ainsi sur la scène une telle masse d'humiliation frappant les faibles, eh bien, ce qui est garanti, c'est qu'il en dérivera une déstabilisation nationale, régionale et internationale dont nous payons aujourd'hui les frais.
Alors, il y a toujours deux faces dans une pièce de monnaie, Bertrand Badie, et je me tourne vers vous, Karim Emil Bita. Humiliation peut-être, mais aussi aveu d'incapacité en ce qui concerne ces pays.
Oui, et l'élément supplémentaire qui permet peut-être d'établir les pointillés entre le passé et le présent, c'est le facteur du messianisme. L'impuissance des pays occidentaux dans la plupart des zones de conflit dans le sud s'accompagne de la rémanence d'un certain messianisme occidental qui est un peu le nouvel avatar des messianismes d'autrefois qui prenaient d'autres formes. Tsvetan Todorov, l'historien des idées, a établi une sorte de continuité entre les trois âges du messianisme. Il y avait tout d'abord la mission civilisatrice, la colonisation, etc. Il y a eu ensuite le communisme et sa prétention à apporter le bonheur et la félicité à tous les peuples de la Terre. Et il y a aujourd'hui ces nouvelles guerres au nom des droits de l'homme, au nom de l'ingérence, qui s'habillent en quelque sorte de très nobles principes pour aboutir à des résultats qui sont, somme toute, assez dérisoires. Si l'on fait le bilan de toutes les interventions occidentales qui ont eu lieu, que ce soit au Proche-Orient ou en Afrique, depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas vraiment d'exemple de réussite marquante. Vous prenez le discours de Bonaparte en 1798, vous le mettez en parallèle avec celui de Bush en 2003 lorsqu'il a envahi l'Irak, il y avait de vrais points de similitude. Et souvent, deux ou trois années après l'intervention, ça tourne vite au désastre et le cas libyen est encore là pour nous le rappeler. Mais en effet, ce qui est marquant, c'est l'impuissance. On continue de penser que les États-Unis sont omnipotents, sont un deus ex machina qui est capable de tirer les ficelles dans le monde entier. Et ils se trouvent tout simplement désemparés, aussi bien en Syrie qu'en Ukraine qu'en Afrique.
Alors, l'humiliation, et pour terminer cette première partie d'émission, et on prolongera bien évidemment de la deuxième, Bertrand Badie, elle n'est tout de même pas cette humiliation l'apanage des Occidentaux ?
Non, bien sûr. D'abord, comme je disais tout à l'heure, de l'humiliation, il y en a toujours dès lors qu'il y a des rapports humains. Ce dont je parlais là, ce n'est pas d'un trait psychologique qui distinguerait le méchant occidental de tous les autres. C'est une ressource diplomatique, une pratique diplomatique, une façon de construire sa diplomatie. En cela, bien sûr, l'Occident n'est pas en position monopolistique. Rappelez-vous comment l'URSS humiliait ce que l'on appelait, et tout se révèle ainsi, les satellites. L'humiliation à Prague, l'humiliation à Budapest, c'est exactement du même tonneau. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve la même logique, c'est-à-dire cette espèce de droit autoproclamé à dominer l'autre et de trouver dans sa domination la solution des problèmes de l'autre. Et je voudrais justement terminer sur ce point, c'est-à-dire le comble de l'humiliation, c'est vouloir s'occuper de l'autre en l'ignorant. Vouloir s'occuper de l'autre, c'est exactement comme disait Karim tout à l'heure, le messianisme, c'est-à-dire que moi je vais pouvoir faire mieux, mais en ignorant l'autre, c'est-à-dire en ne voyant pas sa marge d'autonomie, sa personnalité, son histoire propre, ou alors on vous raconte des trucs incroyables du style qu'il n'est pas entré dans l'histoire et on s'en règle le problème, n'est-ce pas ? Et du coup, cette négation de l'altérité, c'est-à-dire un autre qui a une autre histoire que la mienne, une autre prétention que la mienne, et que l'on ne laissera jamais s'exprimer. Parce que dans l'intervention, on cogne, mais effectivement, on ne s'occupe pas du terreau social.
Il est évidemment question là de respect géopolitique. Nous retrouvons nos invités Karim Emil Bitar et Bertrand Badie dans quelques instants. À tout de suite.